Vous écoutez
RMC.
Et j'accueille Jérôme Sillon qui lui est sur place dans le Kansas à l'Arrowhead Stadium. Mon accent est catastrophique. Salut Jérôme.
T'as pas progressé en allant aux États-Unis, mon Nico? Qu'est-ce qui se passe?
Je crois que c'est le pire nom de stade de la Coupe du Monde quand t'es français.
Arrowhead Stadium.
Ouais, pas.
Alors je suis pas dans le Kansas, attention, je suis à Kansas City, mais dans le Missouri.
Oui, tu as raison, la nuance.
Dans l'état du Missouri, le Kansas est juste à côté, même si Kansas City a cette particularité d'être à cheval sur les deux états. Et d'ailleurs, la polémique ici, c'est que le stade des Chiefs, ils veulent en construire un tout neuf, ultra moderne, avec un toit rétractable pour 2031. Et il ne serait plus dans le Missouri, mais dans le Kansas, au nord-ouest de la ville. Et ça crée une petite polémique parce que les gens adorent ce stade qui, pour moi, est mon préféré de la Coupe du Monde. Il est magnifique avec ses tribunes abruptes, complètement ouvertes, avec ses écrans géants en forme de ballon de football américain. Il est exceptionnel. La pelouse est dans un état merveilleux. Ça va être fantastique.
Alors, j'accueille également l'homme qui a pris la place de Julien Laurence au fond du restaurant à Hell's Kitchen. C'est Maxime Chanot. Salut le Max!
Salut Nico, salut à tous. Et j'ai pas pris que la place de Julien Laurent, j'ai aussi pris la tienne, dis-toi. Je suis ainsi en plein milieu, j'ai pris le micro du chef. Ah, je me sens bien.
Ah, je croyais qu'elle avait été sacralisée, qu'il n'y aurait plus de place. Max, on va bien sûr parler de ce duel entre la Suisse et l'Argentine. On parlera des Bleus dans un instant. Il y a des infos, l'avant-dernière séance d'entraînement de l'équipe de France avant de prendre la direction de Dallas. Dans un instant, ce sera avec Florent Germain. D'abord, la composition, Jérôme, important. Messi, ouais, évidemment, est là, mais qui pour l'accompagner devant?
Julian Alvarez est titulaire aux côtés de Lionel Messi plutôt qu'à Lautaro Martinez. C'est le choix de Lionel Scaloni qui reconduit finalement l'équipe qui a dominé l'Égypte, en tout cas le 11 de départ, avec Paredes, Enzo Fernandez, McAllister et Rodrigo De Paul dans ce milieu de terrain très fourni, mais sans vraiment de joueurs de côté. Molina et Taliafico sont les arrières latéraux. Lisandro Martinez fait toujours la paire avec Cristiano Romero dans l'axe de la défense devant Emiliano Martinez. Vous l'avez compris, Lautaro est sur le banc, évidemment, tout comme Thiago Almada ou encore Gonçalo Montiel. Du côté suisse, on attendait de connaître un petit peu les choix de Murat Yakin, notamment au niveau du système de jeu. Il va repartir sur un 4-3-3 avec un milieu de terrain composé de Freuler, Xhaka et Djibril Sow, le joueur de Séville qui a été préféré à Yachari, notamment au milieu du terrain. En attaque, on aura Ndoye, Embolo et Rieder, donc un Rennais et un ancien Rennais, donc Fabian Rieder. Et puis derrière, on a Denis Zakaria, surnommé Denis Alves par ses coéquipiers, puisqu'il joue arrière droit désormais avec la Suisse. Bon, je ne suis pas sûr que la comparaison soit...
Jeu.
Non, rien à voir sur le profil. Akanji Elvedi dans l'axe de la défense, Ricardo Rodriguez arrière-gauche et Gregor Kobel dans le but. Ricardo Rodriguez et Granit Xhaka qui sont les deux rescapés du huitième de finale de la Coupe du Monde 2014, remporté par l'Argentine face à la Suisse avec un but de Di Maria. Du côté argentin, il ne reste qu'un seul joueur de cette époque-là, c'est évidemment Léo Messi.
Et donc confiance maintenue à Julian Alvarez, 0 but, 0 passe dans ce mondial, alors qu'on a vu une bonne entrée de Lautaro en fin de huitième de finale. Je sais pas ce que t'en penses, Younes. Alvarez, il est méconnaissable, c'est pas le seul dans cette sélection d'ailleurs.
Ouais, moi, je comprends pas ce choix, surtout quand tu vois le dernier match contre l'Égypte, où franchement il est inexistant. Et quand Lautaro Martinez est rentré, ben c'est direct la différence. Il fait la différence. Il court pour Messi. Il défend. Il attaque. Et il est très tranchant. Donc moi je comprends pas trop ce choix.
Max.
Oui, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que si tu regardes son match contre l'Égypte, il a été très très moyen. D'ailleurs, Scaloni l'avait sorti. Après, bon, c'est l'Argentine. C'est l'Argentine. Ça veut dire Léo Messi. Et en fait, j'ai envie de te dire que peu importe qui tu mets dans cette équipe, le plus important c'est d'avoir des soldats autour de Léo Messi. Tu sais que c'est Léo Messi qui t'a sauvé le dernier match, sais que c'est Léo Messi qui fait le tournoi de l'Argentine.
Il y a des meilleurs soldats que d'autres quand même,
je suis d'accord avec toi, mais ça fonctionne pour l'instant. Donc en fait, le plus problématique dans cette histoire, c'est de savoir qui est en mesure en tout cas de pouvoir accompagner Léo Messi. Je suis d'accord avec toi, j'aurais peut-être pris Martinez à la place d'Alvarez, mais bon, écoute, c'est les choix de Scaloni, je pense qu'il faut lui faire confiance. Moi j'ai vraiment envie de me focus sur Léo Messi et voir comment il va réagir, parce qu'il faut pas oublier, messieurs, qu'il y a quand même ça a été jusqu'aux 90 minutes. Le match contre le Cap-Vert, il y a eu 120 minutes. Comment Léo Messi à 39 ans est en mesure de pouvoir gérer physiquement? Et moi, la grande question, elle est là par contre.
Je pense que Scaloni pense que Julian Alvarez est en train de monter en puissance d'un point de vue physique. On rappelle qu'il a débuté la compétition en étant blessé. C'est Lautaro qui était titulaire au début de la Coupe du Monde, et au fur et à mesure Alvarez a retrouvé sa place finalement, parce que ça avait été la révélation de la Coupe du Monde 2022. Dans l'esprit de Scaloni, c'est Alvarez devant Lautaro Martinez, on va dire à condition physique égale, et je pense qu'il parie sur cette montée en puissance de Julian Alvarez pour débloquer son compteur but ce soir.
Bon, on y reviendra bien sûr, on va faire un gros avant-match de ce quart de finale entre l'Argentine et la Suisse dans un instant. Vous restez avec moi, Jérôme, Max et Younes. On prend la direction de Boston, lieu de villégiature de l'équipe de France, avec Flo Germain qui est sur place. Salut Flo.
Salut Nico, salut Maxime, salut à tous.
À trois jours de la demi-finale de Coupe du Monde face à l'Espagne.
Younes, qui est encore là, je crois.
Salut. Younes est toujours là.
Salut, oui, je suis là.
J'avais un petit doute, salut.
Non, mais vous imaginez les gars, les gros moyens quand même. Younes qui, je crois, n'est pas en France.
Au Maroc.
Maxime Chano à New York. Flo Germain qui est à Boston. Et moi qui suis à Paris. Je suis un peu triste, hein, mais bon, voilà, fallait rentrer un moment, les gars, quand même. Flo, avant dernier entraînement des Bleus, avant de prendre la route du Texas, Dallas pour la demi-finale. Départ demain dans l'après-midi. D'abord des nouvelles, tiens, de Kylian Mbappé. Faisons un petit round-up comme ça, l'infirmerie française, qui est plutôt vite quand même. Mbappé est sorti blessé lors du quart de finale. Qu'en est-il ?
Bah écoute, il va bien et il avait vraiment le sourire. Honnêtement, on l'a vu passer plusieurs fois à 2-3 mètres de nous pour le coup le footing avec les titulaires, la plupart des titulaires du match contre le Maroc en quart de finale était vraiment à côté des journalistes quand il faisait ce petit footing, et bah Mbappé sourire dès qu'il croisait un ballon. En plus, c'était les ballons à partir des demi-finales là, donc il avait à cœur de toucher énormément.
Ça faut raconter, Flo, parce que changement de ballon pour les demi-finales.
Voilà, exactement. Changement de ballon pour les demi-finales. J'ai pas eu l'occasion de le toucher ni de le tester, au contraire de Kylian Mbappé. Donc je peux pas non plus te faire une analyse poussée des différences qu'il y a.
Non, mais la raison pour laquelle, surtout, ça je comprends pas en fait.
C'est le marketing, très clairement, oui.
Et l'apparition du maillot,
c'est juste la couleur, ans, c'est juste la couleur ou c'est le
non,
le
apparemment
modèle.
C'est le modèle aussi qui change, quoi.
Ah ouais.
Ça qui est fou.
Alors, la couleur change.
Ouais,
c'est surtout la couleur qui change, le modèle. Ouais. Je suis pas sûr qui
change. On reste sur le même modèle.
On reste sur le même modèle.
Je peux dire ça parce que en MLS, tu sais, on était aussi sponsorisé par Adidas, et ça nous arrivait de changer 3-4 fois de couleur sur la saison, mais jamais le modèle. Donc en fait, ça change pas forcément la façon de jouer. Oui.
Voilà, bon, triomphe de la finale, il s'appelle. Donc voilà pour la petite anecdote. Et c'est vrai que on a vu notamment Tchouaméni aussi, enfin tous les joueurs, mais on avait peut-être plus un œil sur ceux qui étaient éventuellement occupés avec le staff médical ces derniers temps. Donc Kylian Mbappé, oui, va bien, parce qu'il a déjà un petit détail qui pour moi en dit long. Les titulaires n'étaient pas obligés de venir avec leurs chaussures de foot. Rabiot, Koundé par exemple, étaient en basket parce que c'était juste un petit footing de l'entretien quelque part, un entraînement à la carte. Lui, Kylian Mbappé, il voulait absolument être totalement en footballeur, et donc toucher le ballon, avoir des frappes, avoir des sensations, et très clairement il a laissé aucun signe qui pourrait nous faire penser qu'il a une petite douleur au pied, hein, ne serait-ce qu'une petite douleur. Donc ça va pour Kylian Mbappé, grand sourire, à l'aise, impeccable. Tchouaméni aussi, lui, était avec les remplaçants du dernier match, hein, puisqu'il a été forfait lors du huitième de finale et est resté sur le banc lors du quart. Tchouaméni va postuler, hein, pour une place de titulaire. On verra. On n'a pas encore la réponse définitive, savoir s'il a doublé Manu Koné, qui a fait un gros match en quart de finale. Hein. Ça, il faut pas l'enlever. A priori, dans l'esprit du staff, Tchouaméni garde ce statut de titulaire, mais Manu Koné frappe clairement à la porte. Donc, l'entraînement de demain sera intéressant, parce que c'est souvent à J-2. Qu'on peut avoir des vrais indices, des infos sur la compo qui se profile. Et après, je précise que Upamecano et Saliba n'étaient pas à l'entraînement. C'est juste une précaution, c'est de la gestion. Bon, vous savez que Saliba a toujours ses petites douleurs au dos, mais ça ne l'empêche pas de faire une grosse coupe du monde. Et Upamecano, il y avait juste un tout petit bobo au pied, donc il fallait peut-être le préserver. Mais en tout cas, on nous a bien fait savoir qu'il n'y avait aucune inquiétude à avoir, et donc c'était les deux seuls joueurs qui n'étaient pas sur la pelouse de la Bentley University tout à l'heure.
Tiens, reste avec nous, Flo. Je me demande à Younes, on n'a pas eu l'occasion d'en parler. C'était bien placé pour savoir connaître le match de Manu Koné en quart de finale contre le Maroc. Il a été énorme. Toi, pour toi, aujourd'hui, avec un Tchouaméni qui est absent depuis deux matchs, Manu Koné qui a fait le boulot, plus que le boulot d'ailleurs. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Il faut faire enchaîner Manu Koné, avec lequel tu as des certitudes désormais?
Bah après, ouais, ça dépend à comment tu veux jouer. Si tu vas les presser haut et tout, moi je pense plus à un Manu Koné ou qui est capable de harceler, de revenir. Donc voilà, ou si t'as une charnière centrale aussi qui suit le bloc, mais le bloc du milieu. Donc un Manu Koné, c'est magnifique pour empêcher de sortir les Espagnols. Il te faut un Manu Koné qui est très dynamique. Donc ouais, je pense qu'il partirait plus sur un Koné s'il a envie de presser et de pas laisser les Espagnols jouer.
Max, tu ferais quoi toi?
C'est surtout un choix cornélien pour Deschamps, parce que imaginons s'il fait sortir Koné pour remettre Tchouaméni et que la France perd, on va dire c'est la faute à Deschamps. Et s'il fait l'inverse, qu'il laisse Koné et que la France perd, on va dire c'est la faute à Deschamps.
Non.
Il a mal
tu crois qu'on dira ça?
Je pense pas.
Bah forcément, parce que les non, choix.
Je pense que tout le monde est d'accord sur l'idée de maintenir la Koné dans le 11. Je pense quasi. Bon, bah, non.
Je pense que tu connais pas la vie de tout le monde. À mon avis, justement, l'opinion publique veut que Tchouaméni c'est le vice-capitaine. C'est un joueur du Real Madrid. C'était un titulaire indiscutable avant cette blessure. Donc c'est un peu compliqué pour Deschamps. Moi, la question que je me pose, et j'ai presque envie de la poser aussi à Younes, qui a été joueur, ouais. Comment toi tu le prends si t'es Manu Koné, que tu viens d'enchaîner une Coupe du Monde incroyable et qu'on te sort du 11 titulaire? Ça peut être compliqué. Hein. Alors, je ne connais pas après, forcément la personnalité du gamin, mais
c'est un bon mec,
étonné de savoir.
Bon après, quand tu sais que t'as Tchouaméni qui est là depuis pas mal d'années, où Deschamps le met titulaire d'entrée de compétition et tu sais que c'est lui le numéro 1. Ben toi, tu te donnes à fond en espérant, bien sûr, passer devant lui, parce qu'il n'y a pas d'amis hein, dans le football. Hein, on est amis en dehors, mais chacun veut sa place. Mais je pense pas qu'il le prendrait aussi mal que ça, parce qu'il savait que dès le début, Tchouaméni était le numéro 1 à ce poste.
Ouais, y a une hiérarchie,
et Rabiot est indéboulonnable. Ouais. Donc ça se joue entre vraiment.
Oui, parce que Rabiot fait une grosse Coupe du Monde hein, en termes de volume de jeu. On le voit effectivement avec une caisse peut-être qu'on ne lui a pas toujours connue. En tout cas, il est dans une forme optimale. Il est serein, il récupère des ballons, il est propre techniquement, très juste. Il apporte aussi dans le domaine aérien. Il lui manque peut-être les opportunités de frappe qu'il a aurait peut-être mérité un petit but que c'est pas toujours cadré donc peut-être que ça viendra hein, surtout qu'il vient un match important la demi-finale faut rappeler qu'il y a 2 ans il avait été un petit peu bougé dans l'après-match notamment parce qu'il avait eu une petite dette là sur Lamine Yamal en disant il est un peu jeune, il a encore rien prouvé au niveau et le but magnifique de Yamal Rabiot est juste devant lui en Espagne ça avait un peu fait la une des journaux en disant que Rabiot avait été puni de ses déclaration. Alors je ne sais pas si il a ça en travers de la gorge, mais je pense que mardi on aura un Rabiot très déterminé par rapport à cette revanche d'il y a 2 ans.
Je suis d'accord avec toi par rapport à Rabiot. On pourra même lancer le débat. Est-ce que Rabiot n'est pas meilleur avec un Manu Koné à côté de lui? Parce que c'est vrai que moi j'ai le sentiment que lorsque Manu Koné est là, finalement ça le libère un petit peu que du travail offensif, parce qu'on sait comment que ça fonctionne avec Tchouaméni. Tchouaméni est plus le milieu récupérateur entre guillemets, c'est lui qui dézone, qui vient chercher les ballons et qui se met face au jeu pour être la première relanceur. Avec Manu Koné, j'ai le sentiment qu'il se partage le travail avec Rabiot. C'est pour ça que j'avais dit moi au début, quand Tchouaméni était blessé, que c'était peut-être un mal pour un bien d'avoir un Tchouaméni blessé, d'avoir un Manu Koné titulaire, parce que je trouvais que l'entente avec Rabiot était peut-être plus positive pour cette équipe de France.
Younes.
Oui, parce qu'il y a, comme tu dis, Koné, c'est un dynamiteur. T'as vu dans le milieu, il est capable de prendre le ballon, éliminer un milieu de terrain et faire le décalage. Et Rabiot, quand t'as un joueur comme ça à côté de toi, eh ben t'es pas obligé de redescendre trop bas pour venir un peu à la construction. Donc ça le libère des fois de ces tâches-là. Alors qu'avec un Tchouaméni qui est plus dans la récupération et la passe directe, où il joue souvent à 2-3 touches. Eh ben il est pas comme Koné où c'est un dynamiteur où il est capable de percer le milieu de terrain par le dribble. Donc c'est deux profils différents et ça va dépendre aussi de l'Espagne comment va jouer, comme vous savez dans le plan de jeu comment ils vont se sentir, est-ce qu'ils vont avoir la possession du ballon. Ça va être un match très très compliqué pour les deux hein, parce que avec les quatre de devant là, vous parlez de Rabiot où il a pas de frappe, mais ceux de devant ils leur laissent rien du tout hein.
Je pense que la clé du succès pour l'équipe de France et même pour l'Espagne c'est la bataille du milieu. Clairement, si la France arrive à la gagner, alors il va falloir voir aussi comment que ça se passe, que s'il risque d'être en infériorité numérique au milieu de terrain si Deschamps décide de continuer avec ses deux milieux défensifs, ce qui est fort probable. Mais c'est vrai que pour moi, la clé de ce match-là, c'est vraiment les deux milieux défensifs. Donc il faut absolument avoir des mecs à 100%. Et c'est vrai que peut-être de continuer avec un Manu Koné, en tout cas moi, si j'étais sélectionneur, c'est le choix que je ferais.
C'est pour ça que l'autre dossier, Nico, ce sera Doué ou Barcola.
Ah oui,
non, le système.
Le système, il n'y a pas de doute là-dessus. Revenir à 4-3 plus sécurisé face à une Espagne.
Peut toujours y avoir un doute, mais je pense que ça ressemblerait pas au Deschamps du moment.
Ouais.
Qui assume ses choix et qui a bien en tête, on en parlait ensemble dans l'après-match France-Maroc, que les adversaires craignent énormément ce quatuor offensif. Et en fait, tu envoies un signal d'entrée si tu changes ton système, c'est que tu deviens toi un peu craintif. Et honnêtement, ça ressemblerait pas à ce que propose Deschamps depuis le début. Ouais. Donc moi, là, comme ça, j'ai du mal à y croire. Oui, je sais, c'est l'Espagne.
C'est plus le Maroc. C'est une nation qui est dominante en possession de balle. J'ai du mal à croire que l'Espagne, en tout cas, va s'adapter à l'équipe de France, qui n'a pas forcément été le cas des autres nations, où on a même vu un Maroc d'ailleurs qui s'était adapté. On en a assez parlé.
Bien sûr,
je pense que l'Espagne va arriver avec des certitudes. Je dis pas que ça à la France de s'adapter, loin de là, mais c'est vrai qu'avec cette infériorité au milieu de terrain, ce que j'ai dit un peu plus tôt, peut-être que de choisir Doué dans la récupération de balle plutôt que Barcola,
c'est ce que
qui est visiblement
dire,
pas la tendance, mais je pense que ça pourrait être judicieux de la part de Deschamps.
Bah écoute, c'est pas la tendance.
Il y a
pas de vraie tendance, et s'il y en avait une, peut-être que Doué pourrait partir avec une petite longueur d'avance, qui est pas encore sûr. Donc on va pas trop s'avancer. Ce qui est clair, c'est que Doué, peut-être qu'il a un peu plus ce profil de volume, de caisse et de travailleur au milieu de terrain que Barcola, qui serait idéal pour prendre la profondeur quand il y aura des espaces, peut-être dans une deuxième partie de rencontre. Donc ça, c'est le tableau, j'ai envie de dire évident, même si Deschamps pourrait peut-être dire que Barcola d'entrée peut déjà faire mal à l'Espagne et du coup assumer ce choix-là. Là, on n'a pas la réponse, donc on va pas s'avancer. Mais c'est vrai que ce qui va être la réflexion des 24 heures à venir là avec le staff, c'est le choix Manu Koné ou Tchouaméni et le choix Doué ou Barcola. Pour les autres, il y aura pas de surprise.
Choix de riche hein, quand même. Voilà, c'est l'opulence. Hein. Tout va bien pour l'équipe de France si on en est là. Merci Flo.
Merci les amis. Départ demain donc pour Dallas.
C'est bien, vous allez quitter la côte est, c'est cool enfin, vous aussi, c'est bien. Vous allez
non, mais je parlais d'abord du.
Oui,
non,
j'ai bien compris. Moi, je parle de toi et
mais,
de.
Mais nous, on part aussi, évidemment. Mal, pour aller à Dallas, on a déjà envoyé Nico Pelletier qui est sur place et qui nous dit qu'il fait très très chaud, chaleur étouffante apparemment du côté de Dallas. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est un stade climatisé. Donc, pour le coup, il n'y aura pas de sujet à ce niveau-là, au niveau du match.
Merci
voilà,
Flo. T'embrasse tout le monde. C'est l'équipe de France à Boston, d'RMC. À très vite.